Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
OK, là, je vous le dis, si vous devez renouveler un passeport, armez-vous de patience. Anecdote personnelle, pendant la pandémie, le passeport de mon fils est venu à échéance. Il devait faire un voyage, rejoindre sa mère à l'étranger. Ben, il est pas parti parce que j'ai pas eu le temps de faire toute la paperasse pour transiter vers un passeport pour adulte. Ça a pas été un moment facile à passer, mettons. Et là, ce qu'on nous rapporte, là, il y a des histoires comme ça qui sortent à chaque jour, c'est que c'est de plus en plus difficile, c'est de plus en plus long. Faut y aller en personne. Il y a des gens qui arrivent à 6 heures du matin au complexe Guy Favreau où il y a un point de service. Donc, les histoires d'horreur, de délai de passeport sont très, très abondantes. Dans quelques instants, on va parler avec le député fédéral du NPD, Alexandre Boulris. Mais entre-temps, notre collègue Maxime Lachance, que vous pouvez entendre à l'émission Parlons-nous, chaque soir à 18h30, est avec nous pour nous raconter son expérience. Salut Maxime.
Salut Patrick.
Donc, t'as attendu assez longtemps toi aussi.
Ouais, ça s'est échelonné sur quelques jours. Je te compte les deux derniers jours. J'arrive, ça ouvre à 8h30. Je suis allé au bureau de Saint-Laurent. Et bon, j'arrive à 8h30. Il y a déjà une file d'attente. On m'avait dit, faut que t'arrives tôt. Je me dis, 30 minutes avant l'ouverture, je devrais être correct. Je vais réussir à rentrer peut-être un petit peu plus tard dans l'avant-midi, mais au moins, je vais réussir à y aller. J'arrive à 8h, 11h45, il reste 4 personnes avant que je puisse rentrer dans le building.
OK, t'es à l'extérieur.
Je suis à l'extérieur, on attend à l'extérieur. Le gardien de sécurité sort, il dit à partir de midi, donc dans 15 minutes, on prend seulement ceux qui partent dans 24 à 48 heures.
J'ai vécu la même chose à Guy Favreau.
Il paraît que Guy Favreau, c'est quelque chose. Mm-hmm. Il paraît vraiment que c'est quelque chose. Premièrement, quand t'attends en ligne, le gardien de sécurité vient nous voir pour dire, la semaine dernière, c'était le 9 juin. Il disait, si vous partez après le 9 juin, on veut pas vous voir aujourd'hui.
J'ai entendu la même chose. Donc, ça semble être la procédure présentement. On y va au plus urgent.
Donc, j'ai attendu près de 4 heures pour pas finalement rentrer dans le bureau. Donc, le lendemain, je me dis, là, je vais arriver de bonne heure. J'arrive à 6 heures. Ça ouvre à 8h30, là. J'arrive à 6 heures. Je suis pas le premier. Je suis même pas le premier en ligne. On est 5-6. Là, j'attends dans l'auto. Je me dis, je vais voir. Tu sais, il faisait froid un peu. Là, je vais attendre. À 7h15, il a fallu que j'aille en ligne parce que ça arrivait de plus en plus. Puis quand le bureau a ouvert à 8h30, là, on était à peu près 200 à l'extérieur. Je dis ça vite, vite, là. Mm-hmm. Mais il y avait du monde. Puis je voyais des gens arriver. Une fois que tu es à l'intérieur, ça va quand même assez vite. Là. Ça a pris 30 minutes. À 9h, j'étais sorti, là. Mais quand je suis sorti et que je voyais que des gens se rajoutaient à la file d'attente, je me disais, ces gens-là vont pas passer aujourd'hui.
Mais t'as toujours pas reçu ton passeport, d'ailleurs.
Mais j'ai un rendez-vous.
OK.
Pour aller le chercher, c'est le 19. Okay. Moi, je pars le 21 mai.
Il y a beaucoup de gens qui nous écrivent sur la messagerie qu'ils ont rempli les documents. Mais là, ils attendent leur passeport, puis ils ont des billets d'avion, ils savent même pas s'ils vont pouvoir partir.
Parce que c'est ça, il y a des gens qui ont fait la procédure par la poste. Toi, tu t'es dit, je veux déposer ça en main propre dans un bureau.
Et aller le chercher aussi, comme ça, je peux parler à quelqu'un advenant qu'il y a un délai, mais j'ai rencontré des gens dans la file, et c'était ça le problème. Ils ont envoyé tout, puis ils ont pas eu de nouvelles.
Fait que t'es pas de chance, ils sont obligés d'y aller.
Exactement. Il y avait une femme de la Colombie-Britannique qui était en file avec nous, et nous dit que là-bas, c'est 4 fois pire qu'ici. Pour les demandes de passeport.
Wow. Merci, Maxime.
Salut, Patrick.
Merci, on va t'écouter à l'émission. Parlons-nous. Et il y a une auditrice, Marie-Christine, là, qui nous a écrit sur la messagerie. La famille a perdu 3 billets d'avion et pas de possibilité de crédit de remboursement. Il y a une semaine de vacances à cause des retards chez Passeport Canada. On devait partir le 27 avril. Demande faite le 15 mars. On s'était fait promettre les documents pour le 12 avril. Et à ce jour, toujours rien reçu. Donc, perte sèche de 2 000 $, mais aussi grande déception de perdre des vacances. Alexandre Boulris est député de Rosemont, la petite patrie, et chef adjoint du NPD. Monsieur Boulris, bonjour.
Bonjour, Monsieur Lagacé.
Si le fédéral n'est pas capable de sortir des passeports, à quoi ça sert le fédéral dans la vie du monde?
Bien, de moins en moins de choses, malheureusement, parce que déjà, le ministère de l'Immigration est tout croche et dysfonctionnel depuis des années. Puis là, on vient d'ajouter les passeports. Et évidemment, dans mon bureau de député, on a ces appels-là de gens stressés, anxieux, qui ont acheté des billets d'avion, qui risquent de pas pouvoir voyager et qui attendent. Puis que les délais qui étaient normalement là, de 10 à 14 jours, là, on a des cas, des dossiers où ça fait 60 jours, 75 jours que les gens attendent. Et malheureusement, on dirait que le gouvernement fédéral n'est pas capable de livrer un service de base. Là.
Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Je comprends la pandémie, mais je trouve que la pandémie a le dos large pas mal. Là.
Oui, nous autres aussi. Et ce qui se passe, c'est que comme il y a eu moins de voyages dans les dernières années, évidemment, à cause de la COVID puis de la pandémie, ils ont réaffecté certains employés à d'autres ministères, je ne sais pas où exactement. Et là, c'est comme s'il avait été pris de court et qu'il n'avait pas planifié le fait que les gens allaient recommencer à travailler, ce qui est absolument ridicule parce que c'était totalement prévisible quand on voyait la fin de la sixième vague, la levée des restrictions par les provinces, par d'autres pays, puis que le fédéral, ça s'en vient aussi. Évidemment, tout le monde allait vouloir acheter des billets d'avion, puis cet été, s'il y avait les moyens de pouvoir enfin aller voyager. Mais ça n'a pas été planifié. Ils n'ont pas ramené les employés à temps. Et là, ils ont du retard, puis ils ne sont pas capables de rattraper le retard.
Les gens qui arrivent à votre bureau, j'imagine qu'ils vous demandent un coup de main. Des fois, on espère que le député peut secouer la machine. Êtes-vous capable de secouer la machine?
Bien, c'est difficile parce que évidemment, on fait des appels, on envoie des courriels, on essaie de faire des pressions, surtout quand il y a des urgences, puis il y a des gens qui partent très, très bientôt. En même temps, le fonctionnaire, lui, il n'est pas supposé de se faire influencer par l'élu, par le député local. On essaie de faire en sorte que les gens, bon, de sortir des gens de situations qui sont vraiment catastrophiques pour certains, mais c'est pas quelque chose sur lequel un élu local a beaucoup d'influence et de pouvoir. Mais on essaie de faire notre bout quand même. Ce qui est vraiment dommage là-dedans, c'est que on le savait que ça s'en venait. C'est sûr que tout le monde allait voyager. Même les compagnies de tourisme, ils appellent ça, il y a un concept qui s'appelle le travel revenge. Le travel revenge, les voyages de revanche. Les gens frustrés après 2 ans, puis qui se disent, là, cette année, c'est pas vrai, je vais pouvoir aller en Europe, je vais aller en Amérique du Sud, etc., etc. Mais on dirait que le gouvernement l'avait pas vu venir, et puis là, on est pris avec des cas comme ça.
Est-ce qu'il y a des questions qui ont été posées en chambre au ministre de l'Immigration, là, qui est responsable des bureaux de passeport?
Oui, tous les partis d'opposition, là, je vais être très franc, tout le monde a posé des questions là-dessus parce que c'est la réalité dans l'ensemble du Québec, dans l'ensemble du Canada également. On a fait tous face à ces mêmes problématiques-là. Et tout ce qu'on a comme réponse, c'est on a été pris de court, puis on essaie de rattraper le temps perdu, mais là, on a beaucoup de travail à faire, puis on essaie de trouver une solution. Mais ils n'ont pas grand-chose à nous dire de plus que ça. Là.
OK, notre reporter Denis Couture est allé au complexe Guy Favreau où il y a un bureau de passeport Canada, monsieur le député. On va écouter ce qu'il en a rapporté.
On a fait une demande de passeport pour un des enfants au mois de mars. On s'est fait dire qu'il n'y avait pas de problème. Le délai serait environ de 6 à 8 semaines. Aujourd'hui, 10 semaines plus tard, on est incapable de contacter qui que ce soit au bureau des passeports au numéro sans frais. Alors, les lignes nous raccrochent au nez directement. Il n'y a pas de possibilité de laisser de message, de parler à quelqu'un. Il n'y a aucune façon. Je me suis rendue dans les bureaux de Service Canada, même chose. On nous dit qu'il n'y a rien à faire, qu'on ne peut pas parler à quelqu'un concernant les passeports, de se rendre directement au complexe Guy Favreau ou de prendre un rendez-vous par Internet. Chose impossible également. Le prochain rendez-vous disponible est pour la fin juin.
Et la dame a au moins eu un rendez-vous. Moi, j'ai essayé de prendre un rendez-vous tantôt sur le site de Service Canada, monsieur Boulris. Je suis même pas capable de prendre un rendez-vous. Tu sais, tantôt, je sais que vous êtes pas le ministre responsable, mais passez le message à Ottawa. Tu sais, il n'y a pas beaucoup d'interactions dans la vie d'un citoyen avec le gouvernement fédéral, à part à l'impôt, là. C'est pas comme le provincial. Puis là, t'as besoin du fédéral pour avoir ton maudit passeport. Puis Christy, c'est comme la maison des fous.
Oui. Oui, puis c'est la même chose pour les gens avec les dossiers d'immigration, les dossiers de visa de travail, d'assurance-emploi. On dirait que le gouvernement fédéral n'a pas mis les ressources nécessaires pour répondre aux besoins des gens. Et là, c'est pire avec cette crise-là des passeports. Mais je recommande aux gens, puis ils ont raison, à aller vous présenter en personne sur place. C'est quand même la meilleure chose à faire dans les circonstances. Et puis, je suis pas avocat, M. Lagacé, là, mais peut-être que les gens pourraient envisager un petit recours collectif sur le fait que le gouvernement fédéral n'est pas capable de livrer des services de base à la population.
Ouais. Fait que là, on va poursuivre le gouvernement qui gère notre argent pour nous donner de l'argent.
Exactement.
Merci, M. Boulris.
Ça fait plaisir, M. Lagacé. Bonne journée.
À la prochaine. Donc, pensez à tous ceux là qui vivent ces problèmes-là. Je sais exactement ce que vous êtes en train de vivre et vous êtes très, très nombreux à le vivre. Puis tu sais, moi, j'ai toujours dit, Ottawa, c'est loin. Puis je parle pas de kilomètres. C'est à 200 kilomètres, je le sais, mais c'est loin de la préoccupation, des préoccupations quotidiennes des gens. Et il y a des choses que j'ai vues dans ma carrière qui concernaient le fédéral. Je sais que j'avais fait un papier puis que ça avait concerné le provincial. Ben ça aurait bougé parce que le provincial veut pas est pas mal plus proche de la vie du monde et c'est un peu plus réactif. Puis on se comprend là de faire une chronique, de faire une entrevue, c'est pas une façon de gérer l'inertie d'une machine bureaucratique. Mais Ottawa. Écoute, c'est vraiment comme essayer de fesser avec la tête sur un bloc de béton. Il y a rien qui bouge. Donc, on fait l'entrevue quand même, mais armez-vous de patience et allez-y maintenant. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens là, qui ont probablement vécu ça. 2 ans de pandémie, t'as pas eu besoin de ton passeport. Oups, t'ouvres ton passeport, puis tu... OK, il est échu depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Là, c'est la course contre la montre. Il y a des gens qui l'ont raté.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
Salut Philippe.
Rebonjour Patrick.
Tu veux nous parler de la mort de Gilles Villeneuve, si tu permets. Tu sais, il y a quelques moments de mon enfance dont je me souviens très, très précisément quand Dale Hunter a compté pour éliminer le Canadien la première fois en 82. Et la même année, mais la même année, la mort de Gilles Villeneuve, la femme de mon père qui me crie à 2 cours de là, je jouais chez un de mes amis, Gilles Villeneuve est mort. Ça fait 40 ans hier,
ça a été une nouvelle absolument épouvantable à l'époque. Tous ceux qui étaient en âge de raison à ce moment-là se souviennent d'où ils étaient. Moi, je me souviens très bien. Je m'en allais au centre d'achat avec ma sœur en auto quand tout à coup à la radio, on a dit que Gilles Villeneuve avait eu un accident potentiellement très grave. Bon, puis il a été transporté à l'hôpital. Et quelques heures plus tard, toutes les tentatives de le réanimer se sont avérées impossibles. Et puis il est mort. Ça a été un drame épouvantable au Québec en 82, Patrick, parce que il était en pleine gloire, Gilles Villeneuve, quand il est mort. Il était un héros au Québec, c'était un héros de la Formule 1. Il était extrêmement populaire. Puis tu sais, hier, j'en parlais dans la presse, parce que j'ai réfléchi à ça cette semaine, en fait la semaine dernière, là, à ce 40e anniversaire qui s'en venait. Puis tu sais, on oublie qu'en 1982, c'était avant que le Québec prenne ses ailes sur la scène internationale. Il y avait pas tant de Québécois, de Québécoises qui brillaient à l'étranger. Nos joueurs de hockey, c'était nos sportifs les plus importants. Puis bon, c'était un bon retentissement, mais ça demeurait un retentissement nord-américain. Il y avait eu un Félix, un Gilles Vigneault qui est allé chanter en France, mais c'était le marché français. Mais une véritable vedette internationale, connue en Hollande, en Allemagne, en Italie, bien sûr, en Espagne, au Mexique, tu sais, il y en avait pas vraiment. Et Gilles Villeneuve est devenu le premier. C'était avant Céline Dion, c'était avant le Cirque du Soleil. C'était avant que, tu sais, même en termes de sport, on gagnait pas de médailles là en 1982. Là. Le Canada, là, les athlètes québécois, ils en gagnaient pas. Le premier qui a gagné une médaille, c'était Gaétan Boucher en 1984. Bon, il y avait eu quelques médailles auparavant, une en équitation en 1976, mais je parle de vraiment s'imposer, un fort contingent, plusieurs podiums. Tout ça est arrivé après. Même chose dans le secteur des affaires. Des Québécois qui achetaient des compagnies à l'étranger, il y en avait pas, ça existait pas tant que ça. Alors, c'était vraiment un porte-parole extraordinaire, Gilles Villeneuve. C'était un peu le drapeau du Québec partout en Europe, parce que évidemment le grand cycle de la Formule 1 se promenait partout sur le vieux continent. Et c'était aussi, puis c'est ça que je trouve absolument merveilleux quand on y repense avec le recul, c'était un héros improbable, parce que qui aurait pensé 3 ans, 4 ans auparavant que Gilles Villeneuve deviendrait une vedette internationale. Fallait être fou un peu pour penser à ça. Le gars, il courait dans des courses là de Formule Atlantique, puis des courses de skidoo l'hiver, puis il patentait ses autos pour essayer de gagner une seconde au tour. Il quêtait de l'argent à gauche et à droite auprès de commanditaires. Il avait hypothéqué sa maison. Tu sais, malgré tout ça, il était habité par un rêve. Mais le rêve, les chances qu'il l'accomplisse, les chances qu'il devienne le Québécois qui va percer sur la scène internationale quand il n'y en a pas eu avant lui, puis qui va devenir un pilote de Formule 1, c'était quand même hautement improbable. Et il a réussi. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il a réussi ça.
Il a été un précurseur, puis c'est un cas... Philippe, tu l'illustres bien, là. C'est un de ces cas où le sport dépasse le sport.
Ouais. Moi, j'ai l'impression que Gilles Villeneuve, à quelque part, là, il annonçait en 1982 le Québec d'aujourd'hui. Le Québec beaucoup plus confiant en lui-même. Le Québec qui tout à coup réalise qu'il peut briller en dehors de ses frontières. Le Québec qui dit autant ses artistes, ses gens d'affaires, ses créateurs, ses athlètes, bien sûr. Hey, on est capable, nous autres aussi. On est capable de s'imposer partout dans le monde. On n'a plus à se limiter à notre territoire. On est capable de briller. On est capable de réussir. Puis tu sais, il n'y en avait pas tant que ça, des modèles à ce moment-là. Alors, je regarde la force de caractère qu'un gars comme Gilles Villeneuve a montré dans sa carrière. C'est absolument phénoménal. Puis quand il est arrivé lui-même, Pat, en Formule 1, là, je peux te dire qu'il n'a pas été, il a pas été accueilli là, en héros, parce que moi, je me souviens d'avoir parlé il y a quelques années avec Normand Legault. Tu connais Normand, ancien promoteur du Grand Prix du Canada. Puis lui, il était aux premières loges parce qu'il était mêlé de très près à la Formule 1 à l'époque où Gilles Villeneuve a commencé. Puis il me racontait que quand Gilles Villeneuve, il a commencé sa carrière en Formule 1 en 1977, il y a eu une course d'essai avec McLaren, Grand Prix de Grande-Bretagne. Il finit 11e. Et là, lui, il espère que sa 11e place soit suffisamment convaincante pour qu'il y ait encore une chance dans les courses suivantes. McLaren dit non, c'était pas assez bon, on te laisse tomber. Fait que là, il se retrouve l'avenir un peu bouché. Et là, Ferrari appelle. Tu sais, je veux dire, de toutes les écuries, la plus mythique appelle. Dire, hey, on va te donner un essai pour les deux derniers Grands Prix de la saison. Il part avec ça, il se débrouille pas trop mal, il obtient un contrat pour la saison suivante. Mais quand il a eu son essai avec Ferrari, et là, je reviens, je boucle la boucle avec Normand Legault, Normand me disait, la presse italienne était pas mal en furie. Il disait, c'est qui ce gars-là? On n'a jamais entendu parler de lui. Et puis quoi? Des skidoo? Il faisait des courses de skidoo. Puis là, vous amenez un gars de même en Formule 1. C'était un peu une blague pour beaucoup de journalistes. Ben oui, exactement. Mais malgré tout ça, il a réussi. Puis moi, c'est ça, tu sais, parce qu'on parle de ses exploits en piste. Il était casse-cou, il était intrépide, il allait vite, il tentait le diable à chaque course. Tout ça, c'est vrai. Tout ça, c'est vrai. Mais je pense qu'on oublie une chose, c'est qu'on oublie la force de caractère exceptionnelle de ce gars-là pour être parti de Berthierville dans un univers sportif international dans lequel il n'y avait pas de Québécois, d'aboutir chez Ferrari puis de devenir un héros international. C'est une histoire invraisemblable.
Bien dit, Philippe. Merci, on se retrouve demain.
OK, ciao.
Parlons de l'école. De l'école, et pas pour une fois sous l'angle de la COVID, là, de l'école tout court. Réfléchir à l'école, penser à l'école. Ça fait 2 ans qu'on a mis ça sur la glace à peu près. Ça fait du bien d'y revenir, là, pas sous l'angle de l'enseignement à distance, des masques en classe ou des classes mal aérées qui permettent au virus de sévir dans nos écoles. Le Québec a un taux de décrochage qui est préoccupant. C'est historique et c'est endémique. C'est pire que dans les provinces comparables et c'est aussi pire pour nos gars. Pourquoi est-ce que l'école échappe tant d'enfants? Moi, c'est une question qui me hante depuis que j'écris sur l'école, depuis que je pose des questions sur l'école en entrevue. Tu sais, l'école, là, ramenez-vous dans votre jeunesse, là. Ça peut être plate sur un moyen temps. Tu sais, t'as 7, 8, 9, 12, 13, 14 ans, t'es dans une classe, t'écoutes le prof, tu t'es levé beaucoup trop tôt dans certains cas pour aller à l'école pour ton horloge biologique d'adolescent. T'essaies de rester éveillé, tu cherches de la stimulation. C'est le moule, le cadre de l'école est pas pour tout le monde. Il y a des élèves qui fonctionnent très bien dans ce cadre-là, tant mieux pour eux, c'est fantastique. Mais je dis, c'est pas pour tous les élèves, même quand les profs font des miracles pour stimuler les jeunes. Tu sais, vous m'écoutez présentement, vous êtes peut-être dans l'auto en train de préparer le souper, puis vous, vous haïssez ça, les jobs de bureau. Ben l'école, c'est un peu une job de bureau, c'est pas pour tout le monde. Donc, c'est un défi de rendre l'école stimulante, intéressante, puis j'ose même un mot, captivante. Et là, là-dessus, je veux souligner des projets qui se distinguent, qui ont eu un écho médiatique ces derniers temps. À l'école publique, il y a ce qu'on appelle des projets particuliers. Par exemple, un cas classique, c'est le sport-études, genre hockey ou cheerleading au secondaire. Ben, c'est, ça tombe dans la case du projet particulier. Et c'est très généralement contingenté, à la fois par les moyens des parents, l'argent, et par les notes. Il y a des écoles, par contre, qui ont fait le choix ces derniers temps de prendre les barrières puis des jetés par la fenêtre. Tu veux être dans le programme de danse, tu veux être dans le programme de robotique, tu veux être dans le programme de hockey, de théâtre, de soccer, ben t'es admis. Point final. On regarde pas tes notes, on regarde pas tes moyens, on regarde pas ton niveau. Ça va être une façon de t'ancrer dans l'école, de te donner une motivation. C'est ça que le Centre de services scolaires Deschênes à Drummondville a décidé de faire. Le journaliste Marco Fortier du Devoir a parlé de cette initiative-là fin avril dernier. C'est aussi ce qu'une école de Magog a décidé de faire. Il s'agit de l'école secondaire La Ruche et la presse, là, sous la plume de Marie-Ève Moras, en parlait vendredi passé. Et je veux m'attarder à ce qui se passait à l'école La Ruche, c'est vraiment intéressant. Quand les programmes particuliers étaient réservés à l'élite, dans le fond, les élèves dont les parents pouvaient payer pour du sport-études ou de la robotique-études, et ceux qui avaient les notes, ben c'était une forme de stigmatisation de ceux qui n'étaient pas dans un de ces programmes particuliers. Tu sais, là, il y a beaucoup de tes camarades qui sont dans des programmes particuliers, fait qu'ils ont... ils sont membres de cette petite tribu-là. Toi, tes parents ont pas d'argent ou t'as pas les notes, t'as 65%, ben t'es le rejet, t'es à côté. Ça te donne-tu envie d'aller à l'école, ça? Pas tant que ça. Tout ce qu'ils avaient, ces élèves-là, c'était les cours. Pas super motivant quand je parle de stimulation. Là, présentement, tous les élèves de l'école La Ruche peuvent exploiter une passion parascolaire. Et moi, je dis bravo. Quand on y pense, là, ça tombe sous le sens. C'est fertile, c'est prometteur. Quand un jeune a de la difficulté à l'école, quand chaque examen, quand chaque devoir, chaque recherche est une torture pour pas dire une humiliation, ça te tente pas tant que ça d'y aller. T'associes l'école à quelque chose de plate. T'associes ça à l'ennui quand c'est pas à la souffrance. Mais si tu souffres le matin dans ton cours de maths, dans ton cours d'histoire, puis tu tripes en robotique l'après-midi, tu tripes en production vidéo l'après-midi, que tu tripes dans ton équipe de hockey ou de hockey-ball, parce qu'il y a ça aussi, mais ça se peut que l'école, dans ta petite tête d'ado, ça devienne quelque chose qui est pas juste souffrant. Puis ça, c'est extrêmement positif. Et les profs de l'école La Ruche à Magog le disent, tous les jeunes ont désormais un sentiment d'appartenance plus fort à leur école. Avant, si tu n'avais pas 70%, tu n'étais pas admis dans le programme particulier. Il y a quelque chose de cruel là-dedans. Si tu passes sur les fesses à 61%, ben tu es plus à risque de décrocher que si tu as 80%. Parce que c'est dur, parce que l'école, c'est de la souffrance. Tandis que si tu es à 70% et plus, ben les chances que tu décroches, elles sont moindres. Elles sont pas inexistantes, je dis qu'elles sont moindres. Bref, je voulais souligner ces idées-là, puis je voulais parler d'éducation pour parler d'éducation. Il me semble que depuis 2 ans, on parle juste d'éducation sous la lorgnette de la pandémie. J'étais tanné, vous étiez tanné, et c'est toujours formidable de parler d'école. Faut pas l'oublier. Il y a beaucoup de priorités dans l'actualité, beaucoup de priorités dans nos vies, mais l'école, ça demeure le socle de ce qu'on va être demain. Donc, salutations en terminant aux profs, salutations à tous ceux qui sont dans les communautés écoles et qui essayent de rendre l'école plus vivante, parce qu'une école vivante, stimulante, ben, ça crée les conditions pour qu'on ait moins de décrocheurs.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
Bon, on a embauché MC Gilles pour injecter une petite dose de LOL, de drôle.
Puis bonne là, journée.
Veut nous parler des rites funéraires.
Non, mais on va mettre un petit peu... Ben d'ailleurs, tout le monde en parle. Les plus gros fous rires que moi j'ai eu dans ma vie, je pense que ça vous est déjà arrivé, c'est dans des services funéraires.
Moi aussi, beaucoup.
Non.
Des mariages aussi un peu, peut-être.
Vous êtes vraiment bizarre.
Non, c'est parce que t'as pas le droit de rire. Fait que nécessairement, il arrive toujours quelque chose de drôle. C'est plat, mais c'est comme ça. Ça vous dire que je veux vous parler, oui, de rite funéraire, mais c'est parce que c'est un rite important, c'est un rite de passage qui appelle, et c'est quelque chose qui est en perte de vitesse, surtout en Occident. Et là, j'ai fait sortir des statistiques, et c'est assez intéressant. Le saviez-vous, avant, il y a 20 ans, la majorité des gens se faisaient embaumer. Mais là, il y a un renversement. Et à chaque année, depuis l'année 2000, autant aux États-Unis qu'ici au Canada, il y a 1,5% de gens de plus qui se font incinérer. Donc, ce qui fait que là, on est en train de dépasser 60% et là, on s'en va sur 70%. Donc, 7 personnes sur 10 va se faire incinérer. Ça coûte moins cher. Les gens aussi veulent pas. Il y en a qui font les... Quand vous voulez avoir le gros package, je vais parler à la Pierre-Yves, là, vous vous faites embaumer, vous vous faites exposer, vous vous mettez dans une tombe et en plus, vous vous faites incinérer. Puis là, vous vous faites mettre dans un petit cujon.
T'es rendu à pas mal de dinéros.
On appelle ça une hypothèque, ça, dans cette affaire-là. C'est parce que... Là, je vais sortir une section dans mon temps. Dans mon temps, il y avait une façon. C'était pas vraiment compliqué. T'sais, on mettait la personne dans la boîte. Et il n'y avait pas de salon funéraire. C'était dans le salon. Et savez-vous que c'est pour ça qu'au Québec, je sais pas si vous vous rappelez chez vos grands-parents, là, si vous êtes un peu plus âgé chez vos parents, on n'allait jamais veiller dans le salon. Tout le monde veillait dans la cuisine. Pourquoi? Parce que quand notre père, notre grand-père, notre mère, notre grand-mère mouraient, ou malheureusement un frère et une sœur, il fallait l'exposer dans la maison. Ou on l'exposait dans le salon. Et ça durait 3 jours.
Ça devait sentir le yard.
Tout le monde s'habillait en noir. Et là, tu allais dormir en haut, puis t'avais petit frère qui était couché dans la boîte en bas, tu savais qu'elle allait partir. On s'entend-tu que quand la tombe était partie, il y a personne qui voulait aller dans le salon après? Fait que moi, chez mes grands-parents, personne n'allait jamais dans le salon, chez des deux bars. Fait que quand j'allais dans le salon,
ils disaient,
pourquoi tu vas dans le salon? Qu'est-ce que tu fais là? T'sais, j'étais tout le seul bizarre qui est dans le salon. Et là, j'ai compris, mes parents m'ont dit, ben non, c'est parce que grand-papa, il avait été exposé dans le grand salon. D'ailleurs, à cette époque-là, on prenait des photos. Fait que moi, dans les vieux albums de photos, regardez ça, là, chez vous. Quand vous avez visité grand-papa et grand-maman, d'ailleurs, en passant, message social, allez les visiter. Dites-leur. Sors dans les albums qu'on regarde et tu vas avoir mon oncle un tel dans sa tombe, photographié, et c'était avant les selfies, les gens se faisaient photographier avec la mort. Et ça, c'est quelque chose qui fesse aujourd'hui, parce qu'on n'en voit plus de mort. Gilles Villeneuve, là, on a commémoré, là, c'est le 1982. Ouais, 40e anniversaire de sa mort. On l'a ramené ici en avion, militaire, ça a traumatisé sa femme bien raide, là, parce que imaginez-vous le voyage que ça a été. Et rendu ici, il y a eu des funérailles nationales. Et à l'époque, boîte ouverte. Vous pouvez en ce moment go sur Google aller voir la une du journal de l'époque et tout ça. Gilles est dans sa tombe avec son casque de courseur, sa gerbe de rose en forme de char de course. Oui, oui. Et il est là. Vous pouvez voir Gilles mort. Même chose pour la chapelle ardente de Maurice Richard en 2000, ici, au Centre Bell. Le tombeau était ouvert et un plein pied, là. Des orteils à la tête, on pouvait voir. Et là, avec Jean Béliveau, en 2014, non. Et avec Guy Lafleur, on a posé la question non plus. Et je vous le dis, là, on n'en verra plus de
ça. Aretha Franklin, avec ses talons hauts dans le cercueil.
Les Américains sont...
brillants.
Et ça intéresserait Valérie Beaudoin puis toi, Pat, parce qu'il y a une corrélation entre le conservatisme et ces traditions-là. Fait que, tu sais, quand je regardais tantôt là, sur les sites, les statistiques, là, je vous parlais de la crémation. Là où il y a le moins de crémation aux États-Unis, devinez où? Ben le Mississippi, l'Alabama, le Kentucky, la Louisiane. Donc, plus on est conservateur, plus on se fait embaumer, plus on est d'avant-garde, entre guillemets, plus on se fait incinérer. Il y a une corrélation, là, c'est direct, parce que ça nous rappelle le passé. Mais malheureusement, les psychologues et les psychiatres vont vous le dire, il y avait une utilité au fait d'être exposé. C'est que c'était une étape du deuil. Voir quelqu'un qu'on aime décédé, qui ne bouge plus, c'est une étape du deuil. Il nous le disait dans Six Feet Under pour ceux qui ont suivi la série. Oui, ça coûte cher. Et là, cette tradition-là est en train de se perdre, ce qui fait que les gens perdent des proches, des amis, et ils n'ont pas le sentiment qu'ils ont perdu, parce qu'ils se ramassent dans un petit cruchon, puis ça ressemble à ça. Et en passant, encore aujourd'hui, et ça, il y a beaucoup de photos qui circulent là-dessus aussi, c'est moins la mode au Québec, mais surtout aux États-Unis. Tu te rappelles, Patrick, de Urgel Bourgie, C'est comme vous voulez? C'était une excellente publicité que je vois à la télévision.
Oui, mais en fait, c'était plus pour où tu voulais être exposé, à l'aréna, puis fait arranger ça. À la bibliothèque, même chose.
Au cinéma, il y avait une dame dans la publicité qui disait, moi, j'aime le cinéma. Alors, ça pourrait être dans une salle de cinéma. Aux États-Unis, c'est surtout populaire, évidemment, dans le Sud, encore une fois. Il y a un gars qui s'est fait exposer sur sa moto, parce que c'est un amateur de moto, donc ils l'ont embaumé debout, un peu comme Elvis Graton dans le film. Un autre en jouant au poker. Il joue au poker avec ses chums, mais il est décédé. Ça ici, je vous dirais que c'est
pas... Attends, du musique rêvée.
Ils ont embaumé...
Le gars assis sur une chaise avec des cartes dans ses mains.
OK, c'est particulier.
Puis là, après ça, t'as les célébrations aussi, parce que tout le monde a sa propre religion aujourd'hui. Je sais que Catherine, toi, la semaine dernière, oui, dis-je mal, il y avait les funérailles nationales, et la famille de Guy a demandé des funérailles religieuses, mais on n'a pas encore eu de funérailles nationales laïques. Tu sais, un jour, il y en aurait
peut-être. Ouais, je me demandais si ça se pouvait.
Toi, tu se peux. C'est ça qui est beau. Mais le problème, c'est que si tu peux faire ta propre religion, c'est devenu à la carte. Si tu vas visiter les sites des différents centres funéraires, là, il y a une publicité ici qui joue sur nos zones, tu peux décider ça d'avance, là, pour pas encombrer tes descendants, tu peux choisir d'avance ce que t'as. Et tu magasines ton affaire. Fait qu'il y en a qui décident qu'il y a juste de la musique. Il y en a que c'est juste des diapositives. Il y en a que ça ressemble à un party parce que les gens arrivent. Moi, personnellement, étant un conservateur, j'haïs pas ça. Pas dans le sens politique du terme. J'haïs pas ça, moi, les cérémonies religieuses. J'aime la musique. Je sais que toi, Catherine, Mozart, c'est moins ton bag. Mais moi, ma préférée, et on parle de fou rire, la connaissez-vous? Ajoute un couvercle à ta table, Seigneur.
Comment? Ajoute un couvercle à ta table.
Parce que... Il y a une chanson religieuse, et à chaque fois que quelqu'un meurt, il doit avoir un bon Dieu pour me le dire, il chante cette chanson-là. La chanson, ça s'intitule « Ajoute un couvert à ta table, e Seigneur, il y a un convive de plus ». Je l'ai pas trouvé, j'arrive ça à vous faire jouer un extrait, malheureusement, ça n'existe pas sur Internet. Parce que ce qui est intéressant, c'est que les gens qui chantent dans les églises, ils disent pas « couvert », ils disent « couvercle ». Comme le couvercle d'atome. Fait que tout le monde chante « Ajoute un couvercle à ta table, Seigneur, il y a un convive de plus. » Et moi, malheureusement, c'est supposé d'être triste. Et là, c'est là que les larmes coulent de rire. Faut pas que je rie. Et même si j'ai eu bien de la peine, j'ai broyé. Je pense à mon grand-père, entre autres. Ça faisait bien de la peine quand il est mort. Mais quand ils ont chanté « Ajoute un couvercle à ta table, Seigneur, il y a un convive de plus. » J'ai pas pu m'en passer. Et là, il y a une nouvelle affaire, c'est l'aquamation. Ça, c'est la nouvelle patente. Ça a l'air que ça serait bon pour l'environnement. C'est que on vous incinère, mais par l'eau. Évidemment, j'utilise le mauvais mot par exprès, là, c'est-à-dire qu'on vous brûle pas. On utilise l'eau pour réduire votre... Ça coûte pas trop cher et ça serait meilleur pour l'environnement.
C'est ça avec le gun à eau de la cour, à propulsion. Mais sérieux, c'est fascinant.
Tout ça pour vous dire que dans les prochaines années, on prévoit que probablement que l'exposition et l'embaumement vont disparaître parce que la majorité des gens veulent plus. Et moi, je vous le dis d'avance, alors je vous fais mes premiers, je le dis à la radio, je veux être embaumé, je veux être dans une tombe, la porte ouverte, puis je veux que le monde braille en me voyant.
OK, wow. Attends une seconde et on va chanter.
T'es-tu à ajouter un couvercle? Non, je sais qu'est-ce que tu veux. C'est pas la même version que moi.
Mais c'est quand même ça, la chanson.
D'autres notes.
On vive de plus.
Puis, je vais finir l'image de tes funérailles. Embaumé, cercueil ouvert avec ton chapeau de cowboy.
D'accord. Oh my God. Deal.
Anne Gauvin a dirigé les maisons de thérapie Pierre Péladeau pendant 11 ans. Elle est elle-même une rescapée de la toxicomanie. Elle sort ces jours-ci son histoire, dont le titre est « Parler dérange, mais se taire est pire », qui raconte comment et pourquoi elle est tombée dans l'alcool et la drogue à un très jeune âge et comment elle s'est relevée, surtout avant d'aller aider les autres à se relever aussi. Son histoire est racontée avec brio par l'auteur et chroniqueur Christian Tétrault. Les deux sont en studio. Bonsoir à vous deux.
Salut mon vieux Patrick.
Merci d'être là. Salut Anne.
On n'a pas le droit de dire ça, nous autres.
Mais Christian peut me le dire, c'est correct.
Anne, il y a bien des choses que je peux dire, mais que je ne dirai pas par contre.
OK.
Anne, d'abord, on va y aller avec le titre « Parler dérange, mais se taire est pire ». C'est un livre sur la toxicomanie. Ce titre-là m'en semble assez loin. C'est quoi le rapport?
En fait... Parler dérange, se taire est pire fait partie des deux pages de la fin qui m'appartiennent du livre. Et l'auteur a ciblé cette phrase-là pour le mettre sur le livre. Et en fait, ça part du fait que le fait de pas dire les choses dans la vie, de tout cacher, ça banalise. Le livre parle d'abus sexuels, oui, entre autres.
Au mains de votre grand-père.
Oui, c'est ça. Et le fait de ne pas en parler, ça banalise et c'est comme si ça n'existait pas. Et moi, ça m'a toujours donné l'impression qu'on donne la permission aux abuseurs d'abuser. Et donc, parler dérange. Se taire est pire parce que on permet peut-être aux générations futures de continuer d'abuser d'une même famille.
Vous écrivez, vous avez raconté à Christian qui le raconte là, avec brio, je le disais, là, toute votre histoire, mais il y a aussi le souvenir de cette première agression-là autour de 5 ans environ. Et je cite le livre, « Cet événement lui laisse un profond mal-être, une cicatrice ineffaçable. » La drogue dès 12 ans, est-ce que ça vient de cette cicatrice-là?
C'est difficile pour moi de vous dire si ça vient juste de là. Par contre, si je suis une spécialiste en dépendance, la spécialiste vous dirait que c'est multifactoriel, que oui, probablement que les traumatismes ont influencé, mais la partie héréditaire, ma personnalité, mon côté influençable, tout a contribué à devenir ce que j'ai été dans ma vie de toxicomane. Mais je vous dirais que je suis partie avec zéro estime dans la vie. Fait que c'est sûr que ça l'a couvert.
Je vous pose la question, Anne Gauvin, parce qu'il y a quelques années, là, j'avais interviewé des spécialistes qui m'avaient raconté que chez les sans-abri, souvent chez les itinérants, des personnes qui ont des problèmes de toxicomanie qui les poussent à la rue notamment, les victimes d'agressions sexuelles dans l'enfance sont surreprésentées. Fait que c'est pour ça que je vous demandais, là, y a-t-il un lien? On essaie peut-être de geler quelque chose.
Oui, ben en fait, je vous dirais que moi, j'ai fait le même lien avec le Centre des femmes aux Maisons Pélado. Souvent, je me réunissais avec les intervenantes pour constater ensemble qu'on avait toujours en moyenne au moins le 2/3 de notre clientèle qui avait soit vécu des agressions sexuelles ou de la violence. Fait que c'était pas c'est très relié, effectivement.
OK, Christian, je me tourne vers toi. Christian Tétrault, qu'est-ce qui t'intéressait dans l'histoire d'Anne Gauvin pour au point de vouloir la raconter? Parce que quand même, c'est un voyage raconté là sur plus de 200 pages, l'histoire de quelqu'un.
C'est-à-dire que moi, comme tu le sais, je suis allé en thérapie. C'est quand je suis allé en thérapie, justement, au Centre Pierre Pélado, c'est là que j'ai rencontré Anne, qui dirigeait, mais j'avais aucune idée que j'allais un jour procéder à l'écriture de son expérience de vie. J'avais écrit un autre livre précédemment. Le livre précédent, celui-là, c'était un livre qui s'intitulait « Bum », où je racontais la vie de 3 gars que j'ai rencontrés en thérapie et qui avaient eu des vécus assez écrivables et intéressants. Puis j'avais l'idée de refaire la même chose, mais avec des femmes. Ça fait que je suis allé rencontrer Anne, que je connaissais, puis j'ai dit, Anne, j'aurais le goût d'écrire le BOM, mais en version féminine. Et toi, comme t'as connu depuis 10, 11 ans, pourrais-tu me donner quelques sujets ou des femmes qui seraient peut-être intéressantes, que je pourrais rencontrer, à qui je pourrais parler? Puis elle m'a dit, je peux pas te dire qu'il m'en vient une là en particulier. Elle dit, moi, j'ai eu assez de difficultés elle-même. Je dis, ah ouais? Et là, elle m'a juste raconté à peu près pendant une minute et demie, un très bref résumé de ce qu'elle avait expérimenté. J'ai dit, OK, c'est toi.
Et OK, dans cette minute et demie-là, qu'est-ce que t'as raconté?
L'agression, la cocaïne, l'alcool, la déchéance, tout, en fait, pendant une minute et demie. Puis là, j'ai dit, ben voyons. Donc, elle, la façon, le suicide ou le presque suicide, la dernière seconde, décide, OK, je me suiciderai pas aujourd'hui, là, mais quand je regarde tout son parcours, à partir du moment où est-ce qu'elle a été agressée jusqu'à aujourd'hui, qui elle est devenue, j'ai jamais été témoin d'un parcours semblable. Ça se peut pas. C'est comme, écoute, elle dirige des maisons de thérapie, là. C'est pas juste, elle s'en est sortie. Non seulement elle s'en est sortie, mais elle attire des dizaines et des dizaines et des dizaines d'hommes et de femmes qui sont dans le même trouble qu'elle, elle a vécu, puis elle les sort la marde, là. C'est incroyable. C'est incroyable.
Anne, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça?
Bon Dieu. Je le reçois avec, avec quand même beaucoup d'humilité. Moi, je vous dirais. Je pense que tout ça s'est fait une journée à la fois, puis je pense qu'il y a quelque chose de bien important que j'ajouterais à ce que Christian a dit, c'est que il y a eu un objectif qui s'est construit alentour de ce livre-là. C'était de briser le silence pour les femmes qui consomment. Et moi, ça a été mon objectif. C'est pour ça que j'ai fait ça, parce que les femmes parlent pas, parce que les femmes dans notre société qui consomment sont plus jugées que les hommes. Les hommes restent moins avec les femmes qui consomment. Les femmes arrivent plus tard en traitement parce qu'elles n'ont pas de moyens, parce qu'elles ont honte. Souvent, elles consomment tout seules. Donc, dans ce contexte-là, je trouvais qu'on n'avait pas beaucoup de modèles de femmes qui lèvent le drapeau. Des hommes, il y en a plein, puis Mais des femmes, il y en a pas beaucoup. Puis dans le fond, moi, ce que je souhaite dire aux femmes, c'est ce avec quoi t'as construit ta vie n'est pas une fin en soi. Et quand on arrive à se servir de ça pour faire le contraire, puis se rebâtir, ben c'est une grande force aussi.
Quel message vous voulez envoyer aux gens qui se disent « j'ai peut-être un problème », hommes et surtout femmes, parce que c'est votre message, Anne Gauvin, principalement pour les femmes, et qui hésiteraient peut-être, disons, à lever la main et à dire « j'ai besoin d'aide ». Vous avez été, vous, dans ces centres-là, qui accueillaient ces gens-là.
Oui, oui, oui. Puis honnêtement, moi, j'ai pas eu la chance d'avoir une thérapie aussi bonne que celle des maisons Pélado, mais je m'en suis sortie parce que j'étais vraiment très, très, très motivée. Ben moi, ce que je leur dirais, c'est que aujourd'hui, ça dépend d'eux. Tu sais, on grandit tout. Puis honnêtement, moi, je trouve que mon parcours est plus jeune ressemble à beaucoup de femmes. Fait que c'est, pour moi, c'est comme, je sais pas, c'est sans banaliser rien, ça ressemble à celui de beaucoup de femmes. Mais t'es pas obligé de continuer à te détruire. Parce qu'à un moment donné, rendu jeune adulte, ben, c'est toi qui continues à faire ça toute seule par la consommation. Donc, t'es pas obligé de continuer ça. À un moment donné, il faut devenir son meilleur ami. Il faut tourner le miroir vers soi. Puis comprendre que t'es la seule personne qui peut arriver à t'aider à sortir de ton gouffre, si tu veux.
Moi, je suis curieuse de savoir, de passer au travers du processus d'écriture pour le livre. Est-ce que ça vous a brassé en dedans? Est-ce que ça vous a fait grandir? Qu'est-ce que ça a créé chez vous?
J'ai fait une longue démarche thérapeutique et je pensais vraiment que, tu sais, j'étais... mais non, ça m'a fait vivre vraiment là beaucoup, beaucoup d'anxiété. Et comme je disais à Christian, le paradoxe là-dedans, c'est que je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup intimement de sa vie. Et même ma meilleure amie qui vient de finir de le lire me dit « mais il y a des choses que je connaissais pas de toi, c'est fou, tu sais. C'est, mais c'est ça. » Fait que oui, ça m'a fait vivre beaucoup, beaucoup d'anxiété. J'ai pensé beaucoup à des personnes, je vais la reciter encore, mais comme Nathalie Simard, par exemple, comment ça a dû prendre du courage. Moi, j'arrive en arrière de ça, en arrière du peloton. Je sais que ça a été fait par d'autres femmes, là, mais ça demande, ça, c'est très, très demandant. Mais à un moment donné... là, je suis rendue à l'étape où j'assume, puis je suis prête à faire face.
Christian.
Effectivement, il y a eu jusqu'aux quelques semaines avant l'apparition du livre, Anne me racontait qu'elle était en vacances dans quelque part, puis qu'à chaque fois que elle y pensait, il y avait une montée d'anxiété. Puis effectivement, quand t'es une personne qui dans la vie est très très discrète, garde ses choses pour elle, puis du jour au lendemain, tu te retrouves sur la place publique avec un livre qui va en détail et des détails qui sont pas nécessairement jolis, qui sont durs à lire, qui sont durs à écrire, c'est pas une démarche facile, puis aujourd'hui, je suis bien impressionné de voir que tu es avec quand même Patrick Lagacé. Écoute, là.
Ah non, on se dirige vers la fin de l'entrevue et dans le livre, on raconte comment Jean Neveu, qui a été président du conseil d'administration de Québecor, qui a été un collaborateur de la première heure de Pierre Pélado, a été important. C'est lui qui vous a embauché à la tête de ce réseau de maisons. Moi, j'ai pas connu M. Neveu, mais quand j'étais au Journal de Montréal, je connaissais des gens, il y a très longtemps, qu'il connaissait, qui avait un immense respect pour lui, pour M. Pélado aussi. À quel point est-ce que... Racontez à quel point c'est important d'avoir des maisons semblables comme les maisons Pierre Pélado.
Ben, écoutez, les maisons Pélado, moi, j'étais en programme d'aide aux employés avant, ça faisait 10 ans que je référais là. C'est des centres qui sont incroyables, tant au niveau professionnel que sur le plan humain. C'est une catégorie de centres qui pour les travailleurs, pour les professionnels. Je pense que c'est un incontournable. Depuis la pandémie, vous avez entendu, vous autres aussi, hein, on consomme plus, plus de consommation, plus de morts par overdose aussi, des drogues qui sont très mauvaises, etc. Fait que donc, ça prend vraiment des maisons comme celle-là pour être capable de supporter et de changer la vie. Puis vous savez, quand vous aidez une personne, vous en aidez 10 autres en moyenne, selon les études, des proches, des enfants, des proches. Et si vous voulez aider, j'en profite pour vous parler de la marche à sobriété. lesmaisonspelado.com, ils sont en démarche. Et la marche à sobriété ramasse des fonds pour aider les personnes à aller en thérapie. Et c'est pas les besoins qui manquent, et surtout chez les femmes.
Je vais vous garder, Anne Gauvin, et Christian Tétrault, parce que j'ai une dernière question après ça pour M. Tétrault après la pause.
Okay.
De retour en studio avec Anne Gauvin et Christian Tétrault. Christian, chroniqueur, auteur, a écrit l'histoire de Mme Gauvin, qui a un passé de toxicomane et qui s'est relevée pour aller aider d'autres personnes à diriger les maisons Pelado pour toxicomanes pendant 11 ans. Le livre s'intitule « Parler dérange, mais se taire est pire ». Christian, question pour toi, parce que j'ai fait une chronique sur toi en 2019. Il y a 3 ans, là, quasiment jour pour jour.
29 avril.
Exact. Et un an avant, tu avais été arrêté, alcool au volant, vraiment pas pété à ballon, fait exploser à ballon. Et ça a été le wake-up call dont tu avais besoin.
Oui.
Même à un âge avancé, je dis pas que tu es vieux, là, mais t'es pas une prime jeunesse.
J'ai 68 ans. J'avais 64.
T'avais 64.
Oui.
Mais le réveil est venu à 64.
Oui.
Puis la sobriété aussi.
Oui.
Ça peut arriver tard.
Et c'est tellement le plus beau cadeau que je me suis fait, là. C'est d'être quand t'as un problème d'alcool, tu te rends pas compte, mais c'est comme si t'avais un problème de vision avec tes yeux, là. Tu vois de plus en plus embrouillé, mais tu t'habitues à voir embrouillé. Tu t'habitues à voir les choses d'une certaine façon. Puis quand tu décides d'aller en thérapie et que tu t'arrêtes de consommer, et plus ça va, plus c'est comme si tu t'achetais des lunettes. Puis là, soudainement, tu vois tout plus clair, tu entends tout plus clairement.
Il y a une lucidité, dans le fond.
Absolument, tu as une lucidité que tu avais perdue, mais tu te rends pas compte que tu as perdu la lucidité. Moi, je faisais ça aussi, je buvais beaucoup par réflexe de défense. Moi, j'ai jamais été capable de surmonter le décès de ma fille. C'est ça qui m'a parti.
Ta fille qui est morte très jeune, Marie, tu as écrit un livre sur Marie.
2 ans et demi.
Mais comme on parlait avant, il y a un volet autodestructeur, autant vous par votre l'agression que vous avez vécue jeune que toi par le... Dans le fond, vous vouliez mourir, mais lentement.
Moi, j'étais incapable de supporter la douleur que le décès de ma fille.
C'était trop.
Anne?
Je pense pas que c'est aussi conscient que ça. Mm-hmm. À un moment donné, on le réalise là que c'est vraiment de l'autodestruction, mais on n'est pas si conscient que ça au départ. Au départ, c'est comme vivre dans une autre dimension. Mm-hmm. On est très rarement présent dans sa vie.
De ce que je comprends de votre livre, c'est une façon d'engourdir aussi la honte qui venait avec l'agression, disons, là, et les cicatrices. Non?
Absolument. Je dirais qu'en partie, ça a été ça. Puis en partie, ça a été aussi peut-être de m'intégrer à des gangs puis d'être capable de me sentir quelqu'un. Tu sais, il y a plusieurs émotions.
C'est complexe.
C'est complexe. Mm-hmm. Exact.
Vous avez côtoyé Christian quand il était aux Maisons Pelado. C'est ça que j'ai compris?
Ben très peu, parce que moi, j'étais à la direction. On s'est croisés, on s'est dit bonjour,
En quoi son histoire, vous pensez, parce qu'il a dû vous en parler, là, est celle d'autres personnes qui ont besoin d'aide?
Je dirais qu'il y avait une différence avec Christian. Christian fait partie de ceux, parce que ça prend pas toutes des vécus aussi dramatiques. Hein. Il y en a qui ont eu aussi des vies, des belles vies. Puis Christian en est un peu l'exemple. Grandit dans une famille aimante avec tu sais des besoins qui sont satisfaits et tout. Puis lui, c'est arrivé plus tard dans sa vie, mais lui, quand il a eu le choc, il l'a eu solide là, avec la mort de sa petite fille. Mais ça arrive aussi. Tu sais, les gens qui pensent qu'ils sont à l'abri parce qu'ils ont des belles vies, ben non, tu sais, de la toxicomanie, il y en a aussi, peut-être moins, mais il y en a aussi pour les gens qui ont pas nécessairement de drame dans leur vie, qui peuvent aussi... Mais je pense qu'aujourd'hui, on a sur le marché des drogues qui sont assez addictives pour créer des dépendances, peut-être chez des gens qui n'en auraient pas eu s'ils n'auraient pas rencontré ou fait d'expérience avec des drogues comme le crack ou...
C'est ce qu'on dit, que ça accroche pas mal plus que...
Ben, tout ce qui est stimulant est assez addictif. Puis les drogues sur le marché aujourd'hui, on a une grande panoplie à peu de frais.
C'est un livre très intéressant. Je pense qu'il va intéresser les gens qui ont vécu l'enfer de la toxicomanie, qui veulent s'en sortir, qui ont des proches. Et le livre s'intitule, je le rappelle, « Parler dérange, mais se taire est pire ». C'est l'histoire d'Anne Gauvin racontée par Christian Tétrault. Merci à vous deux d'être venus nous voir.
Merci de ton invitation. C'est vraiment plaisir. Super gentil, mon gars.
Bravo.
Belle
merci.
Rencontre. Merci. Merci à vous deux. Merci à vous deux.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin,
vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.